Ce soir, j'ai un cœur de partager sur le thème de la méprise. La méprise, d'être méprisé par certains, d'avoir la méprise dans nos cœurs. Comment gérer ça? Quelles sont les considérations sur ce sujet? Et on peut dire, nous avons une expression en anglais, la familiarité engendre le mépris. La familiarité engendre le mépris. Ça veut dire, ça commence avec la familiarité. Ça commence avec, je connais Marc, il est un bon ami, je connais Marc, je connais ma femme, je connais Paul ou Letty ou Christian. Je connais bien pour longtemps. Mais est-ce qu'on est rappelé que des fois on peut commencer à être nervé par les habitudes des autres? On dit et des fois dans un mariage on dit c'est vrai qu'on peut dire je déteste la façon dont tu fais ça et on est énervé par certaines choses. C'est pas de dire c'est pas un exemple personnel, mais c'est plutôt quelque chose que j'entends des fois. Les gens disent tu toujours fais cette chose comme ça. Et quelqu'un d'autre dit, oui, tu as toujours fait ça comme ça. Et ça, c'est la familiarité. Et une conséquence de la familiarité, on commence à voir des choses sont révélées plus publiquement. Donc, une familiarité produit quelque chose. C'était caché et ça commence à sortir. Ça commence à être visible. Et après ça, ça amène de la méprise. Et ça, c'est vraiment, peut-être c'est proche de la haine dans un sens. Et pour nous, on accepte qu'on est méprisé par le monde, mais on ne peut pas, en tant que croyant, en tant qu'une famille de Dieu, on ne peut pas cultiver le méprise dans nos cœurs. Jamais, jamais, jamais. Et maintenant, je propose peut-être entrer dans quelques points sur le mépris. Et le premier, c'est très intéressant. Alors, la première chose que je vais dire, le premier point, c'est peut-être de définir les mots. Les mots utilisés pour mépris, vous pouvez regarder vous-même dans un Strong's, un concordance de Strong's sur un index, etc., dans un index, dans une Bible d'étude. Le mot bazar. Bazar, c'est intéressant, c'est le mot français, hein, bazar. Maxi bazar. Bazar. En hébreu, 42 fois utilisé, parle d'un manque de respect. De ne traiter pas avec le respect qui s'impose. Donc, c'était vraiment de la notion de pas respect ou de pas regarder cette personne. Kataphroneo, grec, Nouveau Testament, 9 fois. Kata, le préfixe kata, contre. Le partie, deuxième partie, phroneo, nous avons phroneo de penser. De penser contre quelqu'un. De penser contre quelqu'un ou quelque chose. Donc, on peut voir un peu plus le sens de ce mot. Et c'est pas dans un sens de penser avec légèreté. Je vois pas la valeur de quelqu'un ou quelque chose. Donc, ça amène à la méprise. Et la première chose on peut voir, et on le premier point en Genèse chapitre 25. Je parlais avec quelqu'un à Baltimore. On était dans une boîte, on était en train de discuter de ça avant d'arriver à la conférence. Et, on avait une discussion. C'était vraiment bien. Je vais essayer de dire le mot. Esaü a méprisé le doigt d'aînesse. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. verset 34, Genèse 25. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa le doigt d'Enas. Donc ici, il est en train de dire, verset 32, quand Jacob a dit, verset 31, « Vends-moi aujourd'hui ton doigt d'Enas. » Il a dit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le doigt d'Enas? Quelle est la valeur de ça? Je vais mourir. » Première chose, « Oh, le pauvre, en train de mourir, qu'un plat de lentilles va suffire, donc il ne meurt pas. » Comment on peut imaginer quelqu'un qui est comme ça? Je sais des fois, c'est possible de dire, j'ai tellement faim, je vais tomber dans les pommes. Oui, mais je dois vendre ma doigt de Enas parce que je pense que je vais mourir parce que je veux manger un plat de lentilles. Bravo. Donc, il a vendu ça. Sur la première chose, il n'a aucun regard pour la valeur de cette doigt de Enas. Il était le plus aîné. Il est le fils aîné. Il a le droit de quelque chose et il a passé à côté. Il a vendu à Jacob. Donc, tu vois, un privilège de servir et d'avoir plus dans l'héritage. Et après ça, la bénédiction, c'est évidemment, si le droit de Enas était pas considéré légèrement par lui, il va dire la même chose pour la bénédiction. Donc, Jacob a profité de ça. C'est pas correct, on peut dire ça. Jacob, parce qu'il a volé, presque volé, on peut dire ça, c'est une arnaque. Et Ésaü, parce qu'en fait, il a pas considéré précieusement la valeur de ça. Application. Est-ce qu'on regarde l'Église comme ça? Des fois. Ah, c'est juste l'Église. Je viens dimanche, je viens pas. Je viens mercredi, je viens pas. Est-ce qu'on dit en Hébreux chapitre 2, nous avons un si grand salut. On va tourner là. Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses qui nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par, je vais juste regarder le verset, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? On peut négliger notre salut? Oui, on peut négliger notre salut. On peut dire, je suis sauvé. Mais quoi? Quoi, ma sœur? Comme Ésaü a dit, comment ça me servir dans ma vie quotidienne? Je suis sauvé. Écoute, tu es un enfant de Dieu. Tu as échappé le jugement final au grand tremblant. Vous considérez la parole qui est précieuse, qui est imbibée avec le sang de certains, qui a passé et transmis les Écritures. La réunion des saints, l'assemblée en Hébreux chapitre 10, verset 25, et vous considérez ça avec une négligence? Ça, c'est le méprise. Et on doit tous garder nos cœurs. Ça commence, comme je dis, progressivement. Je pense qu'il n'était pas toujours comme ça. Mais Roman parle de lui d'être un de profaner. Il était un homme profane, en fait. C'est choquant. De le fond de son cœur, il n'a aucune considération pour Dieu. Et je vais lancer ça. Rappelons après, là, en Genèse chapitre 33. Genèse chapitre 33. Nous avons les 400 hommes avec lui en train de marcher. Approche Jacob et Jacob regarde et les deux, ils sont croisés, embrassés, ils pleuraient et disent, oh, c'est des années qu'on a vous. Et Jacob a offert certaines choses comme des cadeaux pour son frère. Et son frère dit le suivant. Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui et à toi. C'est ok. Je suis dans l'abondance. Ésaïe, tu es en dans l'abondance. Ça veut dire toi, tu veux. Mais de quoi en fait? Est-ce que tu as l'abondance de la grâce de Dieu? L'abondance de la miséricorde, l'abondance de la paix de Dieu dans ton cœur, l'abondance de l'amour et d'être réuni avec ton frère en Christ, avec Dieu au centre. Non, j'ai juste l'abondance de richesse, de choses pour cette vie, parce que toujours j'ai suffisamment pour ma vie, j'ai pas besoin. C'est comme il est en train de dire, les dons, les cadeaux que tu présentes, Jacob, sont pas, je considère pas légèrement. C'est pas important pour moi. Garde pour toi-même. Combien de fois on dit ça dans l'évangélisation? Combien de fois on croise quelqu'un et la personne dit, ah, c'est bien pour toi, mais pas pour moi. Combien de fois on a donné des biscuits pour Noël? On va peut-être voir si on peut faire ça cette année, quelque chose, mais juste une parenthèse, c'est bien si on peut. Mais de nouveau, de sauter dans la rue et parler avec les gens, et les gens disent non, la grâce de Dieu, pas besoin. Ah oui, l'amour de Christ pour ma vie, la vie éternelle, non, j'ai pas besoin de ça. J'ai une grande télévision LED, et non, comme ça, j'ai pas besoin de ça. J'ai une voiture automatique avec tous les accessoires, les qu'est-ce qu'on dit, bells and whistles, tous les trucs attachés. Ah, j'ai pas besoin, j'ai un travail, j'ai une famille. Oui, mais tu peux avoir la vie éternelle. Non, pas besoin. Ça m'intéresse pas. On entend ça combien de fois, la grâce de Dieu. Mais tu peux avoir la paix dans ton cœur, la réconciliation, la relation. Tu vois. Et pour lui, c'est la même chose. Il ne voit pas l'utilité de cette chose. Et Jacob a compris, parce qu'il était brisé, il a arnaqué avec son oncle. C'était une compétition entre les deux, de arnaquer l'autre. Il arrive, après cette lutte avec Dieu, dans la nuit, il traverse le Jabbok, et il est là devant. Il a dit, je perds tout ici, je peux mourir. Et son frère est tellement, c'est pas important. La vie est importante, la vie éternelle beaucoup plus importante. On peut commencer à être, évidemment ça c'est lui. Il était à part, on peut dire, dans son excès. Mais est-ce que je peux laisser un espace pour ça dans mes pensées? Est-ce que l'église est pas importante, là celui est pas important? Je la vis, je vais mourir, je vais être avec le Seigneur. Pas besoin de penser à ça maintenant. Je sais que je suis sauvé. La familiarité prend sa place et le mépris va prendre de plus en plus la place. C'est comme l'amertume, se cache dans le cœur, mais c'est comme un venom, un poison, une toxine d'un serpent. Ça commence à attaquer. Pasteur Stevens a parlé de quelque chose, les œufs de coquetrice. Et il a parlé de comment ces toxines peuvent être brisées et entrer dans le système et la personne commence à vraiment être empoisonnée par l'amertume. Et c'est vraiment quelque chose de dangereux, il a dit. Moi, je toujours cherche pour ce message. Moi, j'ai entendu ça quand j'étais un jeune croyant. Avant, j'ai entré dans ce ministère, je comprends rien. Mais maintenant, je comprends un peu plus. Si on laisse un poison entrer dans le système, ça va passer partout. Le cœur transmet et une pompe qui pompe le sang partout dans le monde, dans le corps. Comment plus le cœur spirituel peut faire la même chose? Ancien cœur spirituel, le cœur déchu, peut faire la même chose et je peux être complètement rempli avec amertume, avec la haine. Et comme Oswald Chambers a dit, je vis ma vie dans un univers de la haine. Je peux vivre ma vie dans un univers de méprise. Ça va être vraiment un amertume que je vais amener aux autres. Et lui, évidemment, c'était pas tout de suite visible. Mais commence avec le temps, tu vois comment ça va empoisonner les autres relations si les gens restent à côté de lui. C'est quelque chose de toxique et le corps de Christ ne va pas accepter ça. Si quelqu'un vit dans la méprise, c'est comme les antibodies, les anticorps dans le corps naturel va pousser l'infection de sauter. C'est pourquoi quand une infection se commence à chauffer, et c'est parce que les anticorps sont en train de lutter contre le virus ou le, qu'est-ce que se passe, l'infection, pour sortir ça. C'est le même avec le corps de Christ. Le corps de Christ spirituel va réagir contre ces choses. Merci Seigneur que tu as donné des anticorps spirituels. Donc, voir la méprise de la grâce de Dieu, c'est ça. La méprise de quelque chose qui était donné gratuitement, chaque jour. Ésaïe, il a regardé ça, il a dit, pour moi, c'est rien, c'est rien dans ma vie. Mais nous avons l'autre mentalité et on dit, écoute, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas accepter ça. Chaque jour est un privilège pour moi. Chaque jour, les relations dans le corps de Christ. Je vis dehors de le corps de Christ, je peux avoir la vie, ce que je veux. Mais je vis dans le corps de Christ, je suis épanoui, ma cœur est rempli, la joie, je rentre dans la présence de Dieu avec la joie, avec le louange, avec adoration, avec la reconnaissance. Je rentre dans le sang, mais ce que c'est sang. Je rentre devant ces pavés avec joie, avec reconnaissance. Merci Seigneur, je vois les choses comme tu as fait pour moi, la grâce de Dieu pour ma vie chaque jour. Amen, merci Seigneur. Le deuxième, méprise d'une relation, ça c'est très important. Deuxième chapitre 6, verset 16. 2 Samuel 6, verset 16. L'image de quelque chose. Finalement, après tout ce qui a passé avec les dégâts, quand l'arche était transportée dans un char et Uzza a touché et il est mort. Maintenant, David, ok, on va prendre l'arche. Et entre avec l'arche d'approcher la ville de David, d'approcher Jérusalem. Et David, il était habillé avec les vêtements de lin, en train de danser devant. De soie. De lin. En train de danser devant l'arche. Donc il est en train de danser. Et il est des sacrifices. Tous une joie et le peuple regarde et sont entrés dans cette joie. Comme l'arche, verset 16, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. Ça, c'est le côté sud de Jérusalem, côté sud-est. Michal, fille de Saul, regarde par la fenêtre et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle la méprisa dans son cœur. Fenêtre. Comme ça, de distance. Pas avec le corps de Christ. Pas ici, avec la perspective de la chose en train de passer. Parce qu'ici, je peux entrer dans la joie. Je peux voir des choses. Je peux voir les visages de les gens. C'est comme une conférence. C'est comme une convention. C'est comme un groupe ensemble en train de, et on est ensemble en chœur. David en train de danser. David, c'est un peu ridicule. Pourquoi que tu habilles comme ça? C'est un peu dingue. Les choses folles de Dieu sont beaucoup plus hauts que les choses intelligentes de ce monde. 1 Corinthiens chapitre 2. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour, en fait, c'est les choses petites, méprisables, pour renverser les auteurs de ce monde, en fait, les intellects, à les choses orgueilleuses de ce monde. Ici, je suis loin. Ma perspective est maintenant différente. Je suis en train de prendre une distance. Je me loin de la célébration. Je suis à distance maintenant. Je ne peux pas entrer avec mon cœur dans la célébration. Et qu'est-ce qui s'est passé? En train de regarder, elle ne peut pas voir tout. Mais en plus, elle ne veut pas voir tout. Elle est toujours cette position. Parce qu'une fenêtre est un peu fermée, n'est-ce pas? Quand on est là, on a une visibilité en trois dimensions. Mais là, tu as juste une visibilité de ça. Et plus loin. Mais ici, tu es avec la célébration. Tu vois les visages, tu vois les gens en train de crier, les gens en train de chanter. Mais là, tu es un peu séparé. Et ça, c'est le problème pour elle. Elle a décidé pas d'entrer dans cette célébration. Elle a décidé dans son cœur. C'était pas une question de distance physique. Aussi, c'est une distance spirituel. Et quand David entrait dans la maison pour bénir les gens, pour bénir, elle a moqué avec son attitude de dire, oh, c'est le sarcasme. Regarde le verset. Je ne vais pas lire le verset, mais regarde le verset après. Oh, comment le roi était tellement magnifique devant tout Israël en train de danser. On peut discuter de le point, est-ce que c'était nécessaire pour lui de faire ça ou quelqu'un d'autre? On va discuter ça une autre fois. Mais le fait qu'il était devant le Seigneur en train de célébrer, et elle n'est pas là de dire quelque chose de positif, elle entend dire de couper, destructeur. En train de dire à David, il n'est pas en place pour ça dans le corps de Christ. Il n'est pas en place pour cette attitude d'être comme ça. Fais attention de ne pas rester à distance. Le cœur commence à refroidir. Familiarité peut-être. Oui, je peux être toujours là comme je veux. Je connais mes frères et sœurs. Je suis à fond avec eux. Ah oui, mais tu es là. Pourquoi que tu es là? Pourquoi que tu es là? Je sais, je parle pour moi-même. Je ne sais pas de critiquer les autres. Je sais pour moi-même quand c'était passé, je suis distant aussi, ici. Pas attaché avec les choses, en train de passer. Pas à fond avec les choses. Pas en train de voir Dieu, en fait. Parce que Dieu travaille au milieu de son peuple. Je ne suis pas au milieu du peuple, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai besoin d'être dans le corps de Christ. Pas juste que je suis un pasteur, mais j'ai un appel ici. J'aime d'être avec le corps de Christ. Je ne suis pas en Suisse de faire des autres choses. Pas de cultiver une vacherie. Une vacherie? Vacherie? Non, ce n'est pas une vacherie. Une chèvrerie ou quelque chose comme ça. Une vacherie? Donc, j'ai inventé un nouveau mot en français. On n'est pas là, je suis là, pas là pour de former une ferme et faire de lait et de produits laitiers. Non. Je suis pas un agriculteur. Je suis là pour servir le corps de Christ. Je suis là pour être ressasé et pour servir comme un serviteur. Si je suis là, loin, je peux commencer à critiquer. C'est facile de critiquer, c'est pas facile d'édifier. C'est bien d'édifier. Et elle, voir comment on pose la question, et ça c'est la deuxième chose. Elle a aimé David. Elle a aimé David. Elle a presque mis sa vie en menace de mort pour protéger David quand le soldat de Saul est en train d'essayer de rentrer dans la maison. Elle a dit, enfuis David, sors par la fenêtre, cache-toi-même parce que tu vas mourir ce soir, parce que les soldats de Saul étaient là pour prendre et son dos de la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Elle était là, elle a aimé David. Comment se passe avec cet amour? Quelque chose est passé pour cet amour de transformer dans cette amertume, de transformer dans cette méprise. Garde ton cœur avec tout. On va regarder cette verset. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Est-ce que c'est verset... merci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Garde votre cœur. Gardons nos cœurs. Vraiment. Ça veut dire que ce n'est pas juste Dieu qui va le faire. C'est à nous de cultiver des choses dans nos cœurs. C'est à nous, de, en 2 Corinthiens chapitre 10, de jeter chaque amen à obéissance à Christ, toutes les pensées qui viennent de les sources démoniques. Et quand je vois quelque chose qui vient pas de moi, je dis, ça c'est appartient, fait pas appartient de moi. Je prends ça et je jette dans la poubelle. Je prends cette pensée, ça ne vient pas d'un enfant de Dieu. J'accepte pas de laisser cette pensée de prendre place dans moi. Je pense que c'est facile. C'est toujours une bataille des pensées. Mais je dois croire le meilleur avec l'amour. Je ne peux pas laisser cet espace d'entrer. Méprise à cause de l'âge. Prochain point. Méprise à cause de l'âge. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Paul, en train de parler à Timothée, qui est jeune. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole et en conduite, en charité, en foi, en pureté. Ne laisse pas les autres de mépriser, parce que qu'est-ce que s'est passé? Si c'était Timothée, peut-être il va dire, peut-être c'est vrai, je suis jeune. Jérémie, chapitre 1, prophète Jérémie, ne dis pas que tu es trop jeune pour cet appel. Laisse pas un espace pour le monde de dire, mais tu es rien. Écoute pas et accepte pas. Si Dieu dit quelque chose, ne laisse pas le monde dire le contraire. Aucun espace. Pierre, si je dis quelque chose, mange, tu es mange. Mais je n'ai jamais mangé quelque chose qui était impur. Ne dis pas quelque chose d'impur que le Seigneur dit est pur. Ça veut dire contradiction contre Dieu, non. Donc, Timothée, oui, tu es jeune, mais ça, ce n'est pas le problème. Tu es appelé, tu es pasteur, tu es sous l'autorité de moi, tu es serviteur de l'Église. Ne laisse pas l'assemblée de te mettre dans une boîte. Continue de servir le corps de Christ. Et c'est un avertissement pour nous aussi. On regarde les gens. Quand j'étais dans une église en Angleterre, j'étais dans une église de l'Assemblée de Dieu, je regardais les gens devant moi et j'ai pensé le plus spirituel et les gens qui sont plus proches. Et j'ai regardé après le culte a fini, le pasteur a terminé, il a prié. Et les gens commencent à sortir, d'approcher et tourner à gauche pour entrer dans la cafétéria, de boire un café ou un thé. Et je regardais les gens et j'ai pensé, waouh, ces gens sont tellement spirituels, plus spirituels de moi. Et chaque semaine, le dimanche matin au soir, j'ai toujours pensé ça. C'était bête. On peut être tout spirituel, c'est une question d'attitude, de cœur, devant Dieu. Maturité, ça, c'est une autre chose. Mais, Timothée, laisse tomber qu'est-ce qu'on dit? Insécurité que tu n'es pas qualifié. Tu es qualifié. Si je dis que tu es qualifié, continue. Ne laisse pas un espace pour les commentaires des autres. Et pour les autres, de ne pas engendre de ne pas cultiver cette attitude que Pasteur Timothée est trop jeune et voilà, on est plus âgé, on connaît mieux que lui. Des fois, application, des fois on écoute un pasteur en train de prêcher et lui dit quelque chose de faux, comme par exemple il cite un verset qui est le pas de bonne référence, ou il dit quelque chose d'historique, on pense, non, ça c'est dingue. Et tout de suite, on rate, on peut dire, la prochaine chose que le pasteur va dire. Parce qu'on dit, ah, c'est cette pasteur ou cet orateur ou cet groupe de louanges, et qu'est-ce qu'il peut faire, j'ai vu ces gens, ils sont comme moi. Et on peut regarder, qu'est-ce que Paul a dit? Quand je suis venu à Corinthe, je suis venu pour connaître Christ et lui, on vous crucifie. Ça veut dire, je cherche Christ autour de l'assemblée et je vais écouter avec les oreilles spirituelles parce que je veux avoir le communion spirituel. Et donc, Paul est en train de dire ça. Timothée peut dire la même chose. Et pour nous, on peut dire la même chose. On ne cherche pas des autres choses ici. On cherche, on aime le côté social. Oui, super. Mais Christ est au centre. Et cette attitude, on n'est pas toujours en train de dire Jésus-Christ et je regarde cette verset. Ça, c'est faussé. Si on commence à parler de notre foi, ça, c'est plus naturel. Mais c'est l'attitude qui compte. Quelle est mon attitude? Je vois les femmes plus jeunes comme sœurs, les femmes plus âgées comme les parents, comme les mères, les hommes plus jeunes comme les frères et les hommes plus âgés comme les pères. Et je vois les gens comme une famille et je dis, chacun a sa place. J'aime chacun. Pas tout le monde va comporter avec dignité. Mais moi, je vais honorer ces personnes. Le mot-clé, respect. Mon attitude est le respect envers les autres. Et quand j'amène le respect vers les autres, peut-être les autres vont faire la même chose avec moi. Peut-être quand je commence à traiter les gens avec respect, les gens vont dire, ouais, cool. Il a donné honneur. Peut-être je dois comprendre quelque chose ici. Et ça, c'est notre attitude avec amour, de servir les autres et une façon de servir. Et de respect, d'honneur. Je vois les gens qui disent, est-ce que je peux chercher un café pour toi? Ils cherchent un café pour quelqu'un d'autre, ils servent quelqu'un d'autre le dimanche. Ils sont prêts à aider. J'aime ça quand je vois ça. C'est honneur. Ça, c'est le code d'honneur de la famille royale de Jésus-Christ, l'Église. Donc, voir que Timothée peut être méprisé, mais pas déprisé. Quand tu vois une femme ou un homme de Dieu, discerne l'onction, premièrement, pas l'apparence externe, pas l'apparence en 1 Samuel chapitre 16, externe. C'est l'homme qui voit l'apparence externe, mais c'est Dieu qui voit le cœur. Et il y a des gens qui... Des fois, je peux tomber dans la même chose. Je regarde quelqu'un et dis, ah, cette personne, cet homme, il n'est pas vraiment bon prédicateur. Il dit beaucoup de blagues. Non, je vais écouter. Et mon attitude, s'il doit apprendre quelque chose pour lui-même, peut-être il fait beaucoup de blagues, peut-être il apprend, peut-être son prédication est en évolution. Mais moi, mon attitude d'écouter Dieu et d'avoir une bonne attitude envers Dieu et le pupitre va aider ce prédicateur sans une attitude critique et familiarité qui dit qu'est-ce qu'il peut dire. Des fois, le pasteur Chevalier dit, des fois à Baltimore, les gens qui disent quand c'est pasteur Chevalier qui prêche, ils ont dit on va rester à la maison. Quand c'est pasteur Charles qui prêche, on va écouter. Quand c'est pasteur Love qui prêche, on va écouter. Quand c'est pasteur Chebelli, oh, pas besoin. Il dit non, c'est pas une question de moi ou quelqu'un d'autre. C'est est-ce que ton attitude est correcte devant Dieu? Familiarité et méprise. Ça commence avec la familiarité, ça vient la méprise. Prochain point. Paul, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Donc ici, des critiques dans l'église de Corinthe en train de dire, ah, car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présents, quand, pour les présents, en personne, il est faible. Et sa parole est méprisable. Pourquoi que sa parole est méprisable? Parce que quand il parle, il avait une voix, peut-être un problème avec sa voix. Donc, peut-être les gens imaginent lui de parler avec une voix qui est profonde comme ça. Il parle comme ça. Et les gens peuvent dire, ah, il parle comme ça. Il commence à rigoler de le son de sa voix et pas d'écouter les paroles qu'il est en train de dire et pas de voir que comme il a dit quand je suis venu à Corinthe, j'avais une telle faiblesse, mais c'était pas par la faiblesse, c'était la présence de Dieu, la puissance de Dieu, une manifestation de l'esprit et la puissance qui compte. Et donc, c'est possible. On peut dire, mais Paul, il était géant. Il était l'apôtre pour les gentils, pour les païens. Et toujours les gens ont méprisé Paul. Voir, on peut toujours tomber dans ce piège. Donc, l'apparence physique compte pas. On pense, on est dans un monde plutôt comme les Grecs. Les périodes grecques, les gens ont probablement on peut constater, il est toujours des statues d'honorer certains héros. Et l'apparence physique comptait beaucoup pour les Grecs. Beaucoup. Donc les statues, ils sont assez musclés, costauds, voilà. Des femmes, des hommes, mais ils n'ont pas décrit, pas donné une réalité que les gens sont comme nous. Ils sont comme nous, on n'est pas tous comme ça. On vient dans toutes les tailles, tous les fonds, comme vous voulez. L'apparence physique ne compte pas dans le règne de Dieu. Le Père est en train de ne pas regarder les choses externes. Si vous avez un six-pack ou quelque chose comme ça, bravo, bien dans le fitness. Si vous n'avez pas, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. La chose, bien sûr, on dit toujours de garder notre corps, d'être en bonne santé, ça c'est important, oui, bien sûr. Mais la chose plus importante est-ce que nous avons cette réalité avec Christ? Est-ce que sa présence compte pour nous? Est-ce que notre cœur brûle pour lui? Est-ce que c'est tellement important l'apparence physique? Ça, c'est ce monde, comme l'Antiquité avec les Grecs. Maintenant, c'est les choses du cœur qui comptent pour Dieu. La louange, adoration, miséricorde, grâce, le cœur cultivé pour la présence de Dieu. Et le peuple en train de moquer Paul, c'est pas important. Paul va être dans un cours glorifié, il va être devant Dieu, en train d'être honoré par Dieu. Et nous également aussi, un jour. Le physique, on va pas être toujours en bonne forme. Mais ça, c'est quelque chose qui compte pas. C'est est-ce que on cultive cette adoration? Est-ce qu'on a une soif pour Dieu? Et après ça, Dieu voit le cœur. Donc, méprise pas les choses. Christ était méprisé. Je juste regarde mes points. Christ était méprisé aussi. Pourquoi que Christ était méprisé? Parce qu'en Ésaïe chapitre 53, il n'y avait pas une forme qui était semblée une beauté que les gens disent « waouh ». Les films sont souvent un peu trompeuses dans le sens qu'ils donnent l'image de Jésus-Christ. Il est beau, il a une barbe qui est parfaite. On peut dire « oh, ça c'est clair, tellement Jésus-Christ ». Une fois, je lis dans un livre que quelqu'un a fait un commentaire de ça dans son livre, et il a dit, écoute, une fois j'ai vu un film que Jésus, il avait un ventre, il était un peu gros, et il a dit, le critique contre ce film, c'était étonnant, mais il a dit, écoute, ça se révèle quelque chose de notre perspective de qui est Christ, plus que le film en fait. Et c'est vrai, je pense que Christ était un charpentier. Évidemment, il était en bonne forme parce que c'est un travail physique. Et lui, il a fait pas mal de voyages. Donc, évidemment, en bonne forme, mais pas beau. Pas comme parfaitement comme ça, non. Pourquoi qu'il n'était pas comme ça? Parce qu'il a voulu ne pas attirer l'attention aux gens par les choses extérieures. Il veut que les gens voient la manifestation qui vient de son esprit interne, ça c'est la chose qui compte. Donc évidemment, le gens va dire, Christ, il vient de Nazareth, Nathaniel a dit, est-ce que quelque chose bien peut venir de Nazareth? Nazareth est vraiment le trou, c'est vraiment le cache avec les gens qui sont pas cultivés, avec un accent un peu méprisable, et ils sont en train de dire, mais Nazareth, les pharisiens ont dit la même chose, est-ce qu'un prophète regarde les Écritures, est-ce qu'un prophète est venu de Nazareth? Je pense que c'est Jean chapitre 7, verset 52. Et écoute, ils sont fautifs dans ça. C'est parce que Jonas, il est venu d'une ville proche. Non, Jonas, il est venu. Jonas, le prophète, il est venu de le nord. Je crois qu'il est venu de Galilée. J'oublie le nom de la ville, c'est pas important. En bref, te retourner le point. Jésus était quelqu'un de nord dans un village presque connu pour les blagues contre lui. Et tout ça pour dire le suivant. Si Jésus a décidé d'être obscur dans ses commencements sur la terre, et il était moqué jusqu'à la fin, comment plus on va être moqué? On va être moqué aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a choisi Christ, on a choisi de marcher avec lui. On va être méprisé également. Le problème pour nous est qu'on aime les gens et on aime d'être aimé par les autres. Et on essaie d'avoir une bonne réputation ou essaie de compromettre des fois afin que les gens veulent nous aimer. On va être méprisé parce qu'on est jeune. Ça, c'est la chose. On va être méprisé parce qu'on est différent. Et on ne peut pas cacher ça. Dimanche, peut-être, je vais parler de la persécution. Le niveau de persécution, type de persécution, etc. C'est dans mon cœur. Tout ça pour dire on va être méprisé. Si on nomme le nom de Jésus-Christ, c'est évident. Donc, dans un sens, c'est normal d'être méprisé, mais ce n'est pas normal pour nous de mépriser les autres. Si on méprise les non-croyants ou les croyants, frère, sœur en Christ ou quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est pas juste. Méprise mon boss, mon chef. Non, ça c'est pas bien. Christ n'est pas honoré dans ton cœur. Donc de couper et trancher. Des fois, Dieu sent mon cœur. Et je dis, écoute, je suis en train d'être familier avec quelqu'un dans l'assemblée. Aide-moi, Seigneur, d'être un homme de Dieu qui ne va pas être familier parce que la familiarité engendre le mépris et je ne veux pas mépriser les gens. Donc, attitude, demande au Seigneur de sonder nos cœurs. Psalm 139, sonde mon cœur, Seigneur. S'il y a une familiarité, il y a quelque chose en moi, de garder ses comptes avec le Seigneur, d'écouter sa voix, dire ok. Parce que le monde méprise, mais nous, on ne va pas entrer dans le même jeu. Et quand les gens voient quelqu'un qui a cette attitude d'aimer et de ne pas mépriser, ça amène une atmosphère, une ambiance qui est saine, sainte, pure. Et les gens vont dire, j'aime cette personne. Il est quelque chose de différent. Ils ne sont pas comme les autres. Il y a un respect pour tout le monde. C'est différent. Je ne vois pas ça avec les autres. Et notre attitude va être un témoignage pour les autres. Donc, le mépris, j'ai parlé brièvement de quelques points, mais juste de voir comment c'est important d'avoir le respect et pas le mépris. De ne pas connaître quelqu'un après la chair, mais de connaître quelqu'un après l'esprit. Et comment, quand je traite les gens comme les serviteurs de Dieu, mes frères et mes sœurs, et je honore quelqu'un, comment c'est tellement honorable, ça va être quelque chose récompensé par le Seigneur devant le tribunal de Christ, et c'est quelque chose avec les fruits maintenant sur la terre. Que Dieu vous bénisse.